Mais on va aller dans l'Ancien Testament ce soir après pour regarder l'histoire d'un roi d'Israël, de Juda, qui va nous exhorter à n'abandonner hein, le Seigneur, à n'abandonner pas le Seigneur. OK. Hébreux 10, 25, un verset que vous connaissez. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, la vérité. La base de notre foi et de notre espérance. Et donne-nous ce soir un cœur ouvert à ta parole. Parle à nos cœurs par ton Saint-Esprit. Dirige-nous. Aide-moi dans cette prédication et dirige mes pensées. Fortifie-nous dans ces jours, les derniers jours qu'on vit maintenant, les derniers des derniers jours. Et que tout se passe pour la gloire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Et on voit ici dans ce verset, j'ai remarqué, c'est le 10-25, c'est le même numéro que notre adresse à notre église, le 10-25 Avenue Admiral. Pas pire.
C'est bon.
OK, c'est bon. Donc, vous êtes le 20, le 10-26.
On est
vos
voisins.
Ah ouais, c'est ça. Pas pire, là. En tout cas, hey, l'Église est essentielle, hein? Et on voit aujourd'hui la bataille spirituelle contre l'Église, hein? C'est vraiment le diable qui est à l'œuvre dans le monde et même dans les gouvernements, hein? Pour empêcher l'Église, pour faire peur à l'Église de rassembler, de chanter. C'est les choses vraiment importantes, essentielles, se rassembler, se réunir et aussi de chanter à l'Éternel. Et ça dit, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc on doit augmenter notre communion fraternelle, notre exhortation commune, peut-être on va dire, d'exhorter les uns les autres à continuer à suivre le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi l'exhortation, cette communion fraternelle est tellement importante? Pourquoi? On a la Bible, hein? On peut rester chez nous pour lire la Bible, mais on a besoin hein, de nos frères et sœurs, on a besoin de l'Église. Pour nous aider à continuer à suivre le Seigneur. On a besoin de cet encouragement. Il n'y a rien qui peut remplacer l'Église et son importance dans notre croissance spirituelle et dans notre fidélité au Seigneur. Vraiment, si on abandonne l'Assemblée, c'est sûr que les autres choses vont suivre rapidement. Mais moi, je vais être fidèle jusqu'à la fin. Je vais terminer ma course, hein, comme Paul a dit. Et on voit à travers la Bible les personnes qui ont bien commencé, hein, ont très bien commencé, puis à un moment donné, ils ont abandonné le chemin de Dieu. Et dans 2 Chroniques, chapitre 16. On va voir l'histoire du roi Asa. Le roi de Juda. Et on va lire, commencer dans verset 1, 2 Chroniques 16, verset 1, la 36e année du règne. D'Asa, Bécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Alors, on sait qu'il y avait un conflit, une division entre le peuple d'Israël, à ce moment-là, il y avait le roi Asa, qui était roi sur les tribus de Juda. Puis Baasha était le roi d'Israël, ça veut dire dix autres tribus, les dix autres tribus, les tribus de Lévi. Les Lévites étaient comme à part, ok? Il n'y avait pas vraiment un territoire. Mais on voit cette division. Puis c'est le roi d'Israël qui a monté contre Juda. Ok? Il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir d'entrée. Verset 2. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Dama. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va rompre ton alliance avec Baasha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi d'Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et frappèrent Ijon, Dan, Abel, Maim, et tous les magasins des villes de Nephtala. Lorsque Baasha l'a pris, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi d'Asa occupa Juda à emporter les pierres et le bois que Baasha a employé à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Alors on voit ce problème pour Asa, le roi de Juda, le roi Baasha qui allait bâtir une ville, une forteresse pour vraiment pour empêcher le peuple de Juda de sortir d'entrée. C'était vraiment un problème pour Asa. Et on voit la solution que Asa a choisie. C'est une solution pratique. Hein? Et j'appelle ça une approche pragmatique. Vous connaissez ça, le pragmatisme? C'est quoi le pragmatisme?
Faire ce qui marche.
Faire ce qui marche, oui. J'ai vérifié la définition juste sur Google. Doctrine selon laquelle n'est vrai que ce qui fonctionne réellement. Okay? Ce qui fonctionne, c'est la bonne chose là. Okay? Et on voit ici, Asa a pris le chemin pragmatique. Okay? Ça va fonctionner, okay, c'est la chose qu'on va faire. Et en fait, ça a fonctionné, son plan, pour résoudre le problème immédiat dans sa vie. OK? Mais on sait que, hey, comme enfant de Dieu, et surtout pour le roi du peuple de Dieu, Dieu voulait qu'il fasse confiance en lui pour les problèmes de la vie, pas dans les solutions pragmatiques comme ça. Et il a fait une alliance avec le roi de Syrie. Il a fait une alliance avec une autre nation. Et là, le problème commençait vraiment dans ses solutions. Okay, au lieu de chercher l'aide de Dieu, il a cherché l'aide du roi de Syrie. Donc, dans verset 7, il dit, « Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, okay, ou le prophète, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Donc, le prophète avait des choses dures à dire à le roi d'Asa, mais c'était vrai. il a pris une, vraiment une mauvaise décision comme moi. Et la chose qui a manqué, c'est de rendre gloire à Dieu, hein, avec ses décisions. Il était centré juste sur de résoudre les problèmes immédiatement. Il a oublié le but ultime de rendre gloire à Dieu par toutes choses, ok? Et nous, comme enfants de Dieu, nos vies ne sont pas pour nous-mêmes, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et chaque problème dans nos vies, c'est une occasion de montrer notre foi en Dieu, de montrer notre confiance en Dieu et de lui rendre gloire pour toutes ces choses. Et aujourd'hui, on vit un moment vraiment difficile dans notre monde. Et c'est un moment où l'Église de Jésus-Christ peut vraiment rendre gloire à Dieu et faire un bon témoignage dans le monde si notre confiance est en lui. Hein? Et on voit vraiment avec cet événement, cette situation mondiale, ça divise, ça nous montre vraiment la qualité ou la foi, vraiment la vraie foi des gens, les gens qui sont vraiment attachés à Dieu et les chrétiens qui sont juste superficiels dans leur foi. Mais même un chrétien mature peut tomber, hein? Des fois peut prendre des mauvaises décisions comme ça, hein? On pense à David qui était le roi, un homme selon le cœur de Dieu, mais il a tombé. Et donc, il y a un verset qui dit, celui qui pense de être debout, c'est quoi le reste? Oui, amen. Ok, parfait. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Église. Parce que même si ça fait plusieurs années, longtemps qu'on est dans l'Église et on est vraiment, on est mature dans la foi, on connaît la parole de Dieu, on a besoin toujours de cet rappel et faire confiance en Dieu. Parce que en réalité, le plus qu'on connaît, même les choses de la Bible, le plus qu'on a la tendance à se fier sur notre connaissance au lieu du plan de Dieu. Et ici, Asa, on va voir plus tard, Asa c'est un homme, un roi qui a vraiment essayé de suivre le Seigneur. Mais avec cette situation qui est arrivée, il a tombé dans la mauvaise pensée, dans la mauvaise approche, une solution pragmatique. Et ça a comme arrêté son progrès spirituel. Dans verset 10, ça dit, Asa fut irrité contre le voyant. Okay. Le prophète ici. Et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. On l'a enterré dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art de parfumeur et l'on brûlait en son honneur une quantité très considérable. On voit la fin de la vie d'Asa. C'est vraiment triste, la fin de sa vie. Et si on lit juste le chapitre 16, on pensait que le roi d'Asie, c'est un homme qui ne suivait pas le Seigneur de tout dans sa vie. Il avait eu des problèmes. Vraiment, c'est un homme qui ne voulait pas suivre le Seigneur. Mais si on va dans le chapitre 15, chapitre 14, le verset 1, «
C'est-à-dire, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. On va voir vraiment ici comment c'est. Il a bien commencé. C'est-à-dire, il fait ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Et si on voit l'histoire des rois d'Israël, on voit ça souvent, les rois qui ont bien commencé, mais une fois qu'ils ont eu le succès, souvent leurs yeux étaient détournés de Dieu et sont tombés. Et c'est triste. Mais c'est important qu'on voit la faiblesse de l'homme. Hein? La faiblesse de l'homme est le fait qu'on a toujours besoin de l'aide de Dieu et de l'encouragement pour le persévérer dans la foi. Yeah, parce qu'on arrive tous dans des moments où c'est difficile, hein? Dans nos vies. Les choses qui changent, les choses inattendues, les épreuves qui durent un peu trop longtemps. Vous avez vécu ça, et des épreuves, et hey, là, Seigneur, ok, c'est trop long cette épreuve, hein? Ça arrive, hey, à moi, ça arrive des fois, là, pour moi, hey, c'est difficile ici au Québec, hey, est-ce que je peux servir le Seigneur? Dans une place peut-être moins froid ou où je peux parler en anglais, pas de problème avec la langue. C'est le Seigneur qui nous encourage. Et souvent dans les épreuves, et c'est dans les épreuves et dans les points hauts, les réussites, qu'on est vraiment vulnérable. La tentation du diable et ses mensonges. Mais si on pense à ça, les rois, Asa, c'est le arrière-petit-fils de Salomon. Okay? Selon l'ordre des rois, Salomon, c'est le grand roi qui a bâti le temple. Okay? Le fils de David. Et Salomon, il a bien commencé aussi. Hein? Mais on voit même seulement l'homme le plus sage a eu des problèmes plus tard dans sa vie. Oh boy! Il a fait des grandes choses au nom de Dieu, mais il a permis que l'idolâtrie s'installe, hein, parmi le peuple, souvent à cause de ses femmes, ses 300 femmes. C'est fou ça! Pour quelqu'un qui était sage, et hey boy! mais vraiment, il a abandonné la voie de Dieu. Et si on retourne dans, on va aller dans un roi, juste pour voir avec Salomon. Chapitre 11, verset 9. Roi 11, 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Ok, c'est toujours un problème de cœur. Hein? Dieu veut faire des grandes choses pour l'homme que son cœur est entièrement à lui. Mais ici, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessous toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. » C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Donc, on voit dans la vie de Salomon un homme vraiment sage qui a trompé d'une manière qui vraiment le Dieu vraiment avait porté le jugement contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé auprès d'autres dieux. Il avait le temple, il a bâti le temple de Dieu. Wow, quel succès de bâtir ce temple immense, mais en même temps, il a laissé les temples des autres pour les autres dieux entrer parmi le peuple aussi. Et on voit le jugement de Dieu sur lui. Donc, il a dit, OK, le royaume va diviser, pas dans ton règne, mais dans le règne de ton fils. Et c'est ce qui est arrivé. Roboam, c'est le fils de Salomon, qui était inauguré comme roi, mais c'est le serviteur de Salomon, Jéroboam, qui en fait a attiré, distribué, pour comme créer son propre royaume. Et c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui a ordonné que ça arrive dans sa sagesse, dans son bon plan pour ramener son peuple à lui. Mais on voit ici la division. On voit ça dans le monde aujourd'hui. La division. Comment, quand on abandonne les lois de l'Éternel, c'est la division qui s'installe. Et on voit dans Roboam, il a fait des bonnes choses. Premièrement, Jéroboam, qui avait les distributs, Roboam avait juste le tribu de Juda, la ville de Jérusalem, et la temple était à Jérusalem. Donc, il y avait une division politique en Israël. Ses distributs ont choisi Jéroboam comme roi pour eux, mais le temple était à Jérusalem. Ça a causé des problèmes logistiques. Logistical problems? Logistique, OK. Ça marche. OK, c'est nos ennemis, mais le temple est là. Ça, c'est un problème. Donc, qu'est-ce que Jéroboam a fait? Il a créé son propre religion, ses propres temples. Dans 1 roi 12, elle est là. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, le fils de Salomon, roi de Juda, et ils me toueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Voici, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » OK, wow. Quand je lis ça, c'est comme, wow, est-ce qu'ils n'ont pas lu dans l'Exode ce que le peuple a fait et comment ça n'a pas bien été? Mais on voit ici le cœur. Quand le cœur est voilé, aveuglé, il n'y a pas de sagesse. Mais Jéroboam a créé sa propre religion pour les gains politiques. Mais ça fait que ses distributs ont abandonné vraiment le Seigneur. Donc, Israël s'est détourné de Dieu. Roboam,
il a fait des bonnes choses. Si on va aller dans deux chroniques. Retourner dans deux chroniques. Chapitre 11, verset 13. Ce qui est arrivé, il y avait des Lévites étaient les sacrificateurs, les gens qui s'occupaient du temple, de toutes les choses qui appartiennent à ça. Mais les Lévites étaient comme partout dans le pays, mais ça a causé un problème à cause de Jéroboam, sa décision de créer un autre système religieux. Puis qu'est-ce que Roboam a fait? Dans verset 13, les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui. Quand les Lévites abandonnèrent leur banlieue et leur propriété et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchaient de remplir leur fonction comme sacrificateurs de l'Éternel. Donc, ça a causé un gros problème pour les Lévites. Alors, ils se sont réunis à Jérusalem. On était où là? Verset 15. Jéroboam établit ses sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs, pour les veaux qu'il avait faits. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. On voit vraiment ici une division. Les gens qui vraiment cherchaient à suivre le Seigneur sont allés à Jérusalem, à Roboam. Si on continue ici, verset 17. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans, car il marchait pendant 3 ans dans la voie de David et de Salomon. Donc on voit Roboam, il a bien commencé. C'était une situation difficile, hein? Imaginez-vous comment c'est difficile. Dans le temps d'Israël, que les gens étaient comme dans une tempête spirituellement. Regardez dans chapitre 12. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume, parce qu'il suivait le Seigneur, et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui. Oh boy! Donc, il a bien commencé, Roboam, puis après un bout de temps, il a quitté. Après ça, c'est Égypte qui est venu. Dieu a envoyé Égypte pour juger vraiment son peuple. Et on voit que ça n'a pas bien terminé avec le roi Roboam. Après ça, ok, on a Salomon, Roboam. Abijah, c'est le père du roi Asa. Abijah a fait une guerre avec Jéroboam et on tombe dans 2 Chroniques 13, verset 10. Je donne des highlights de l'histoire. Vous pouvez aller cette semaine lire toute l'histoire, c'est vraiment intéressant. Abijah, roi de Juda, verset 10. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'autel de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leur fonction. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum d'odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la terre pure et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes car nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Il parle de la fidélité, cette roi de Juda. Et il dit, et vous l'avez abandonné. Verset 12, voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous.
à nos têtes et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. » Il parle de contre ses ennemis. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'aurez aucun succès. Alors, c'est une bataille de Jéroboam, le roi d'Israël, contre Abijah. Mais on voit ici Abijah, évidemment, il y avait un cœur de suivre le Seigneur, de faire les choses, d'abandonner pas l'assemblée, le temple, toutes les choses que Dieu a ordonnées. On voit son désir de suivre le Seigneur, cette voie Abijah. Verset 21. OK. Mais ça dit, « Mais Abijah devint puissant, il eut 14 femmes, OK, et engendra 22 fils et 16 filles. C'est pas le bon verset là. Excusez. Mais on va continuer. C'est Abijah le père de le roi Asa, juste avant ce qu'on a lu dans Chronique, 2 Chroniques 14. Mais on voit vraiment son héritage, la ligne royale. Il y avait bien des problèmes, hein, à vraiment continuer à suivre le Seigneur. Et c'est un rappel pour nous. Pour chaque personne, on a besoin vraiment de veiller sur nos voies. Chaque jour, on ne peut pas laisser juste pour un instant de suivre le Seigneur. Mais on voit ici Asa, le fils d'Abijah, quand il est arrivé, on a déjà lu dans 2 Chroniques 14, et ça, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Et il a bien commencé. Mais ce qu'on a lu, à un moment donné, probablement à cause de l'orgueil, hein, ce qu'on voit dans chapitre 16, il a vraiment pris une mauvaise décision. Dans 2 Chroniques 16, on a déjà lu verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et ça, c'est important pour nous ce soir. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Comment ça dit en anglais? OK. Les yeux de l'Éternel run to and fro. Hein? C'est comme en anglais, ça dit what's run to and fro. C'est comme mes enfants. Ils sont partout. Hein? C'est comme Dakota, il est partout. Ok, il court partout. Ok, il dit les yeux de l'Éternel courent partout. Ils cherchent toujours une occasion de vraiment montrer sa puissance. Donc, on voit ici l'occasion qu'on a vraiment de voir la puissance de Dieu dans notre propre vie. Hein? Parce que si ses yeux sont partout, hein, il connaît chaque occasion qui se présente pour lui de montrer sa puissance. Dieu manque jamais d'occasion de faire quelque chose de grand pour prouver sa puissance. Il dit pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc, c'est quoi la priorité pour moi, pour nous, comme croyants, dans nos problèmes, dans nos difficultés? C'est de garder un cœur tout entier à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux garder mon cœur tout entier à lui? Hein? Je vais penser pour un moment. Comment garder un cœur tout entier à lui?
Fidélité.
Hein? Ça prend une assemblée. Hein? Je pense à le psaume 1. On est en train, à notre église, de mémoriser le psaume 1.
Les psaumes beaucoup écrits par David, homme selon le cœur de Dieu. Hein? Il dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. » C'est-à-dire, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Je pense que c'est là, là vraiment la clé. OK? Et pas de faire ce conseil, on fait chaque personne individuellement, OK? Mais aussi en tant qu'Église, il y a deux priorités. De garder nous-mêmes, ça dit, OK, on va relire le verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de conseils, n'est-ce pas? Dans notre monde, le conseil, chacun a son opinion. Mais c'est vraiment, on a besoin de discernement. Le discernement dans la vie pour voir, OK, c'est un bon conseil, mais c'est quoi le caractère de cette personne-là qui me donne un conseil? Hein? Ça nous donne un indice sur la qualité de leur conseil. Ça peut marcher leur conseil d'un certain aspect. Un aspect pragmatique, mais est-ce que c'est le bon conseil de Dieu? Donc, on a besoin de discernement. Ça dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les associations, il faut veiller sur les gens avec qui nous marchons. Et qu'il ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. On voit cet homme. Il y a vraiment, il y a le discernement. Les gens dans sa vie, dans son entourage, il les connaît, il évite. Hein? Il évite les gens qui peuvent être une mauvaise influence dans sa vie. Si on veut garder notre cœur tout entier à Dieu, il faut être vigilant. Hein? Vigilant dans les choses qu'on laisse dans notre vie, les conseils qu'on laisse dans notre vie, les messages qu'on laisse dans nos oreilles. Verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Au lieu d'avoir les conseils des méchants, de marcher dans les voies des pécheurs, d'avoir la compagnie des moqueurs, il y a la parole de Dieu comme compagnon dans sa vie. Il médite jour et nuit. Ce que j'ai remarqué dans ces versets, dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Son plaisir, c'est d'être dans la parole de Dieu. Dans la loi, qu'est-ce qu'il y avait? Hein? Il y avait l'Ancien Testament. Quand je commence à lire l'Ancien Testament, Genèse, c'est bon. Exode, c'est il y a de l'action. On tombe dans Lévitique, j'y arrive. Oh boy, oui. Dans le nom, c'est oh, beaucoup de noms là. Mais une personne, des fois on peut trouver des certains passages un peu, ce qu'on peut dire, secs. Il n'y a pas beaucoup de choses qui disent wow. Mais on voit ici si notre cœur est vraiment, notre cœur est. Et, allez, c'est là. Notre cœur est. Ravi de Dieu, OK? Notre plaisir est de connaître Dieu. Notre plaisir va dans la parole de Dieu. Et on va méditer jour et nuit. Ça garde notre cœur. On voit ici vraiment des décisions importantes. Ça prend de la discipline, l'autodiscipline. Est-ce qu'on peut dire ça? Autodiscipline, self-discipline? OK. De vraiment sonder les Écritures, hein? Méditer sur la parole de Dieu et éviter les mauvaises influences dans notre vie. Et c'est vraiment simple à dire, mais aujourd'hui, des fois c'est difficile à mettre en pratique. Ça prend l'attention, hein, à ce qu'on voit, ce qu'on fait dans notre vie. Et ce que je remarque aujourd'hui, on a beaucoup de distractions, hein, aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire. Et on doit être vigilant plus que jamais et avoir de garder notre cœur entièrement au Seigneur. Ça dit heureux cet homme qui marche pas selon le conseil des méchants. Il est heureux. Les méchants, ils veulent être contents. Hein? Ils veulent être heureux. Les pécheurs, ils veulent être heureux. N'est-ce pas? Même les moqueurs, ils veulent être heureux. Tout le monde veut être heureux. Mais ces personnes ont choisi le mauvais chemin. Mais une façon d'être heureux et suivre le Seigneur en même temps. Hein? Est-ce que c'est possible? Mais il faut que notre cœur soit entièrement à lui. Souvent, on veut avoir un compromis entre le Seigneur et le monde. Et c'est la personne la plus malheureuse dans le monde, c'est la personne qui essaie de faire un compromis entre les deux. C'est une bataille. Hein? Mais d'avoir ce cœur, que le Seigneur nous aide à veiller sur notre propre cœur. Je prie pour ça, pour moi-même. Que Dieu révèle à nous les places qu'on a peut-être gardées pour nous-mêmes, les choses qu'on n'a pas données entièrement au Seigneur. Pour suivre le Seigneur, ça prend une. Il faut. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit quiconque veut venir après moi, c'est difficile en français, OK? C'est quoi les exigences?
Qu'il porte sa croix.
Il abandonne. Se charge de sa croix. La première chose, c'est. Hey, j'ai pas regardé le verset avant. Mais. En tout cas.
Renonce à lui-même.
Ouais, merci, c'est là. Renonce à lui-même. Merci. Renonce à nous-mêmes. Ça, c'est difficile, hein? Et c'est pas juste une fois dans la vie qu'il faut faire ça, c'est chaque jour. Hein? On a la décision de renoncer à nous-mêmes et suivre le Seigneur, ou renoncer au Seigneur puis suivre nos propres voies. Et nous, des fois, on veut à cause de notre chair, hein? La chair que, oh boy, je déteste, et je reste vraiment heureux quand on va être enlevé au ciel puis il n'y a plus de bataille avec la chair, mais à cause qu'on est encore dans ce corps. Il y a une bataille entre la chair et l'esprit. Mais si on choisit vraiment notre désir, c'est de suivre le Seigneur, on va être heureux dans ses voies. Et l'exhortation ce soir, c'est on a besoin de nos frères et sœurs. Parce que on est comme ça, des fois, on est sur la montagne, puis dans la vallée, des émotions, et. Pour les pasteurs, je vais vous dire, le lundi, c'est toujours une bataille. Le lundi pour des pasteurs, je ne sais pas pourquoi. Si c'est je crois que c'est un bon dimanche qu'on vit ou un mauvais dimanche, il semble que le lundi, c'est toujours une bataille avec quelque chose. En tout cas, on a besoin de prier les uns pour les autres. Hein? On ne peut pas abandonner notre assemblée. Mais il faut de plus en plus exhorter les uns les autres, prier de plus en plus. Et moi, j'aime le fait que Pastor Roy, la prière, c'est important pour lui. Il organise des rencontres de prière. Ça, on a besoin de ça. Et on va là, Dieu voulant, la prochaine réunion de prière, c'est quand? Le 10 maintenant, le 10 octobre. Donc, ouais, donc. J'ai hâte pour ça. Puis c'est ce qu'on a besoin, de prier les uns pour les autres, de chanter ensemble, de se réunir ensemble, de méditer sur la parole chaque jour. Mais Dieu est là pour prouver sa puissance dans notre vie. Et il est là, il veut montrer sa puissance. Et j'ai vraiment l'espérance et... la foi que Dieu veut faire quelque chose de grand, okay? Dans nos églises, dans ces jours de ténèbres, ces jours difficiles, Dieu a toujours un bon plan. Alors, on ne sait pas exactement quand Jésus va revenir. Selon les choses qu'on voit, ça nous fait penser que ça va être bientôt. Mais s'il retarde son avènement, on ne sait pas. Mais je sais qu'il veut faire des grandes choses encore à travers nous. Et c'est un privilège qu'on a de le suivre. Donc, lâchons pas. Hein? Mm-hmm. On ne va pas lâcher de suivre le Seigneur et de prier les uns pour les autres, encourager les uns les autres. Hein? Mm-hmm. Chaque fois que c'est possible, on a l'occasion d'encourager les gens à continuer à suivre le Seigneur. Prends l'occasion et Dieu va être notre guide chaque jour si on le laisse, si on le laisse nous guider. On va prier. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour le fait que tu marches avec nous. On a vu dans l'Ancien Testament ces hommes qui ont bien commencé et il y avait des problèmes, des gros problèmes. C'est des exemples pour nous de des choses à ne pas faire, hein? Des avertissements pour nous. Et on a un grand Dieu. On est faible, mais tu es puissant. Merci pour Jésus qui vit en nous. Hein? C'est le Saint-Esprit qui agit en nous pour nous rendre forts, pour nous rendre capables de te suivre. Et nous à garder nos yeux fixés sur toi. Et que vraiment nos églises puissent continuer à grandir, à répandre ton évangile. Surtout ici au Québec, c'est notre cas et pour le peuple ici au Québec qui a besoin tellement d'espoir. On voit à travers cette pandémie que toutes les choses, les suicides qui augmentent, les problèmes, les dépendances qui augmentent, les problèmes dans les familles, ça augmente. Le monde est vraiment dans une crise. Pas à cause du virus, mais à cause du péché. Et c'est nous qui avons la lumière. Et nous être fidèles à toi. Et nous être la lumière ici. Dans notre pays, dans notre province, dans notre ville. Et on prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.